Nous fourmillons tous d'idées naturellement, et nous sommes sans cesse guidés par ces dernières. Le processus créatif fait partie de nous. Il est toutefois long, difficile et tout autant fascinant à mettre en place. Mais n'y a-t-il rien de plus frustrant que de ranger nos idées dans un coin de notre esprit, sans jamais les développer? Aujourd'hui dans le Déclic, je reçois Lucie. À tout juste 21 ans, elle est fondatrice des cartes de Lulu, une micro-entreprise désormais société qui vend des cartes de vœux qui se biodégradent sous forme de fleurs ou de plantes. Elle nous raconte justement les étapes clés de la création de son entreprise, de l'idée même à son lancement, en passant par les moments cruciaux tels que l'arrêt de ses études, ses premiers démarchages et son passage dans Qui veut être mon associé sur M6, lui permettant ainsi d'être soutenue par un investisseur. Vous êtes sur le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lucie, merci de participer au podcast Le Déclic. Je te remercie beaucoup pour ton temps.
C'est moi.
Donc Lucie, aujourd'hui tu viens nous parler de ton métier. Comment tu te décrirais? Tu es entrepreneuse?
Oui, c'est ce que je dirais.
Et tu gères actuellement la société, on va dire, des cartes de Lulu?
C'est ça. Je suis la créatrice des cartes de Lulu. Enfin, j'aime bien dire ça.
La créatrice, fondatrice, créatrice et lanceuse de l'initiative, du projet, hein, les cartes de Lulu. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce que c'est exactement les cartes de Lulu?
Alors, les cartes de Lulu, c'est ma petite entreprise. C'est en fait des cartes à planter. Donc, c'est des cartes un peu magiques, on va dire, qui sont faites avec deux feuilles de papier recyclées. Et à l'intérieur, on utilise différents amidons pour y coller des graines. Ce qui fait qu'une fois que la personne a reçu sa carte, carte de mariage, d'anniversaire, au lieu de la jeter ou de la garder sur le frigo, elle peut la planter, bien arrosée évidemment, et le papier lui va disparaître, les graines vont germer et ça donnera des fleurs, des carottes, de la salade, de la menthe, voilà. C'est des cartes un peu magiques.
Donc moi, en plus d'aimer écrire des cartes du côté papier-papeterie, et j'ai bien vu que tu travaillais aussi avec des illustratrices et que c'était vraiment des cartes très esthétiques. La démarche environnementale derrière est juste magnifique, je trouve. Et donc voilà, moi, déjà, je tenais à te dire à quel point je trouvais ton projet tellement intéressant et ouais, impactant.
Merci.
Donc je suis encore doublement plus fière de te recevoir aujourd'hui, parce que je trouve que c'est... tu es jeune, tu as 21 ans, si je me trompe pas.
Oui.
Donc 21 ans, lancer un tel projet. Enfin voilà, avant qu'on aille plus loin dans pourquoi tu as lancé ça et comment tu l'as lancé, une question que je pose un peu à tous mes invités au début, c'est quel métier tu voulais faire quand tu étais petite, Lucie?
Je voulais faire déjà pas mal de métiers quand j'étais petite, je changeais d'avis un peu comme de culotte. Je voulais être... princesse à Disneyland, tu sais, celles qui font coucou comme ça. Ouais. J'aurais voulu aussi être chef de village au Club Med, donc être tout le temps en vacances. J'aurais voulu être vétérinaire aussi à un moment. J'ai voulu ouvrir un foyer de l'enfance. J'ai voulu faire plein de choses en fait. Et sans rapport les uns avec les autres. Sinon, c'est pas
ouais. Cool. Au final, t'as fait le choix, t'as tranché la pomme en deux. Ou la poire en deux, je sais plus c'est quoi l'expression. T'as tranché et tu t'es lancé. Comme ça, au moins, t'auras plus le choix. J'ai cru comprendre aussi que tu avais fait des études de commerce international.
C'est ça, la plus belle partie de ma vie. C'est une blague.
En général, mes invités parlent beaucoup de leurs études et tout ça, si c'est des étapes importantes. Moi, j'aurais juste aimé comprendre le choix de tes études et quelle idée de carrière ou de profession tu avais derrière la tête en choisissant de faire commerce international?
Alors, pour la petite histoire, l'année où j'ai passé le bac, j'étais à Chicago en fille au pair dans une famille, et la maman travaillait à l'Innovation Center de McDonald's. Mmh. Et autant McDonald's, c'est une énorme boîte qui a des milliers d'employés, autant leur Innovation Center... On avait l'impression d'être à la maison avec la famille et ils travaillaient sur les nouveaux produits, sur comment ils plaçaient les poubelles dans les magasins parce que tout est réfléchi. Et je me suis dit, ça, j'aimerais bien faire, en fait, travailler dans un endroit où ils innovent, où ils trouvent des idées folles juste pour améliorer des petites choses qui, enfin, où nous, en tant que clients, on voit pas l'intérêt, mais eux, en fait, ça les aide vraiment beaucoup. Et pour ça, il faut faire des études de commerce, généralement. Et j'ai vu qu'il y avait des cours, en fait, enfin, ce programme IBM, qui était en 3 langues et dans 3 pays. Et je me suis dit, ça, c'est cool, parce que moi, j'aime bien voyager. J'étais déjà en Allemagne aussi, en cours. Et je me suis dit, avoir des cours en allemand, en anglais et en français, et être en France, en Allemagne et en Suisse, ça va m'ouvrir des portes. Ça va être chouette. Et du coup, ben, j'ai eu mon petit bac, et puis j'ai commencé ces études-là, parce que je me suis dit que ça allait m'ouvrir plein de portes, quoi.
Et donc, tu as une licence actuellement, c'est ça ?
Non, pas vraiment, j'ai arrêté avant la fin.
Ça fait 2 ans et tu as arrêté, en fait, c'est ça ?
C'est ça, j'ai arrêté à partir de 2 ans et demi, en fait. Le dernier semestre était en Allemagne, et j'étais plus motivée, en fait, parce que je voyais que je perdais mon temps, en fait. On n'a pas la même vision des choses. J'avais déjà lancé les cartes de Lulu, et ça manquait de soutien, en fait, les profs. Une chose qu'ils m'ont dit quand... En Allemagne, on a changé du coup de prof, on était la même classe, on devait se présenter. Et j'ai présenté ma personne, j'ai dit que je travaillais au Leclerc le samedi pour financer mon projet et que j'avais mon entreprise, les cartes de Lulu, et que je vendais des cartes à planter. Et je me rappelle du regard de la prof, qui était une prof d'économie internationale, qui avait un doctorat, quelqu'un de waouh quoi, et qui m'a dit que mon projet en fait c'était nul et que fallait vraiment que je me concentre plus sur mes études et que j'arrête de faire caissière le samedi parce que ça me faisait perdre mon temps et qu'il fallait que j'étudie et que j'arrête les cartes de Lulu, des cartes postales, les Chinois en vendent à 20 centimes et que les gens ils écrivent plus de cartes de toute façon de nos jours. Et je me suis dit, flamme dans ta gueule, enfin c'est pas gentil de dire ça mais c'est exactement ce que je me suis dit et j'avais juste envie de partir en pleurant et de m'enfermer dans les toilettes. Et au lieu de ça je lui ai dit en anglais du coup on verra ce que ça donnera, mais moi je crois en mon projet et on verra ce qu'on verra.
Waouh, moi ça me choque énormément d'entendre ça d'une figure déjà on va dire d'autorité, mais de, enfin voilà, censée t'inspirer, surtout en commerce international.
C'est pour ça que je l'ai présenté, parce que je pensais que j'aurais du soutien un peu, qui dirait « Oh, bah c'est cool, si t'as besoin d'aide, des questions, hein, viens nous voir ». Et en fait, bon après, il y a des profs qui étaient très sympas, mais il y en a 2-3, alors qu'on avait une dizaine de profs qui ont dit « Non mais c'est mort ton projet, te lance pas dans ça, nous on est des professeurs, hein, on sait ». Donc ton petit projet d'entrepreneuriat, oublie, c'est pas une bonne idée en fait. Tu vas jamais faire de chiffres, tu vas jamais pouvoir en vivre et tu vas juste perdre ton temps.
Alors que justement, au lieu de te dire ça, je pense que ils auraient juste pu te dire, bah c'est génial, tu vas pouvoir apprendre. Enfin moi, ce que j'ai entendu dans pas mal de podcasts d'entrepreneurs et tout, c'est justement, il y en a beaucoup qui ont commencé quelque chose, ils se sont trompés peut-être au début, voilà, ils n'ont pas fait les bonnes choses et ils ont beaucoup appris en fait. C'est sûr, ils ont perdu du temps ou peut-être aussi un peu d'argent, mais ils ont aussi beaucoup appris. Donc même si ils ne croyaient pas en ton projet et tout, c'est ridicule.
Oui, et il y a des manières de dire les choses. Là, c'était devant toute la classe, c'était un des moments les plus gênants, je pense, pour moi. Ils auraient pu me le dire à la fin du... Enfin, ils auraient pu me dire « Ok, d'accord, Lucie, enchantée. » Et à la fin du cours, me dire « Lucie, fais attention, faut pas, peut-être pas trop que tu t'accroches à ton projet. » Enfin, le dire d'une manière sympathique et pas devant tout le monde et me clasher comme
ouais,
ça.
Ouais, te descendre.
C'est pas un moment hyper agréable, quoi.
On allait en parler plus tard, mais justement, ça t'a peut-être rendue forte face peut-être à certains doutes ou à certaines critiques que t'as pu recevoir par la suite ou peut-être même encore aujourd'hui par rapport à ton projet.
Oui, enfin, maintenant, je suis contente et je suis fière et je me dis, je leur ai montré qu'ils avaient tort. Enfin, c'est bête, mais ça fait quand même une certaine fierté de se dire que j'ai réussi, en fait. Enfin, j'ai réussi, il n'y a pas de réussite en soi, mais je suis allée plus loin que les 2 mois qu'elle m'avait prédit, tu vois. Donc, ça fait quand même plaisir.
Ouais, non, clairement, mais je reviens un peu sur les questions, donc... La question que je t'avais posée, c'était du coup, donc tes études, tu les as arrêtées parce que tu lançais les cartes de Lulu.
Alors, pour te donner une idée, j'étais au 4e semestre à Colmar quand j'ai lancé mon projet.
Ok.
Donc, c'était en janvier 2018. Et à ce moment-là, en fait, j'entrais de la trésorerie. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer en commençant avec tes cartes à toi. C'est trop compliqué parce que ça demande un investissement important. Donc, j'achetais et je revendais en fait des cartes d'autres éditeurs. Français, toujours, et je les proposais sur mon site internet. Je faisais des petits marchés pour vendre mes cartes, Et mais je vais peut-être répondre aux autres questions en fait en même temps. En juin, ma mamie, une fois, on était dans le jardin, et elle utilise des rubans de graines dans son jardin, où en fait les graines elles sont toutes les 5 cm pour que ce soit planté droit et que les graines elles poussent correctement. Et j'ai trouvé ce papier juste dingue, je me suis dit en fait c'est des cartes comme ça que je veux faire, parce que moi j'adore les cartes, je les garde, c'est un truc, je les collectionne, je trouve ça trop chouette, et peut-être justement parce que mon papa a des colonies et qu'en colonie on reçoit des cartes de ses parents, enfin voilà, je sais pas, ça a peut-être un lien. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire des cartes avec ce papier magique. Et je me suis dit, bon, j'ai pas trop de fonds, mais j'avais quand même déjà un peu mis de côté les 300 euros du salaire du Leclerc tous les samedis en travaillant à la caisse et des ventes un peu du stock d'autres cartes. Et du coup, je me suis mis à illustrer mes 3 premières cartes avec mes illustrations, alors que je suis pas illustratrice de base ou quoi, jamais pris de cours de dessin, mais je me suis dit, on va essayer, ça marche tant mieux, ça marche pas, au moins j'aurais mis personne dans le panier avec moi si ça foire. Et j'ai trouvé Rémi dans les Yvelines qui crée du papier ensemencé et surtout qui imprime sur ce papier. Parce qu'on utilise des encres végétales, on peut pas utiliser n'importe quelles encres. Il faut que ça passe quand on le plante, quoi. Et oui, on peut pas utiliser n'importe quelles imprimantes parce qu'il faut pas que ça broie les graines, il faut que les graines elles tiennent le coup en impression. On peut pas mettre n'importe quelle graine, par exemple, on pourrait pas mettre... je sais pas, des géraniums par exemple, je voulais absolument mettre des géraniums parce qu'en Alsace les géraniums c'est le Graal, on peut pas parce que c'est trop gros. Et du coup bah, je me suis lancée avec mes 3 premières cartes et ça a commencé un peu comme ça, quoi.
Ok, non mais c'est génial, t'as fait une introduction de comment c'est créé, on y reviendra tout à l'heure, parce que ce que je voudrais savoir c'est donc aujourd'hui les cartes de Lulu c'est une SAS, c'est ça?
Yes.
Et parce que, en fait, peut-être que certains qui nous écoutent te connaissent et t'ont vu à la télé au mois de janvier sur M6. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette étape qui a peut-être été cruciale pour les cartes de Lulu?
Ben, je pense que ça a été décisif. C'était, en fait, j'ai été contactée par la production, donc Sony, qui s'occupait de l'émission qui va être mon associée, en janvier. Donc, quand je passais mes partiels en Allemagne... Et ils m'ont dit, il faut que tu tentes, parce qu'il y a une sélection. On était, moi je sais pas exactement, mais je crois 700 entrepreneurs à participer au casting. Il y avait plusieurs sélections, on devait envoyer une vidéo, on devait envoyer un formulaire de je sais pas combien de pages avec toutes les informations de l'entreprise. On a eu plusieurs interviews pour voir si notre projet il était solide, pour pas qu'on se fasse lyncher après lors du passage télé. Et à un moment, j'ai eu ce moment où je me suis dit, qu'est-ce qui m'apporte le plus, en fait? D'aller en cours ou de faire ce que j'aime, les cartes de Lulu, sachant que M6, en fait, ils me disent que mon projet, il est cool, quoi.
Ouais.
Et j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais en cours. Je me sentais pas bien de me dire que je devais faire 200 km pour aller à l'Eurare et que j'apprenais pas ce que je recherchais. Et j'y avais pas une ambiance folle et j'avais pas l'impression d'être à ma place.
Ça manquait de concret, ce que tu faisais, c'était trop dans la théorie par rapport au cartes de Lulu, oui, qui était plus pratique, c'est ça?
C'est ça, et je trouvais qu'il n'y avait pas de sérieux, pas de sérieux. J'avais souvent quand même des profs absents, j'ai 2 heures de route, et ils me téléphonaient à Molsheim, donc à 30 minutes, pour me dire « Entschuldigung, ich habe eine Konferenz heute, ich bin wieder nicht da ». Donc en français, je suis désolée, j'ai une conférence, finalement je ne serai pas là aujourd'hui, alors qu'on est censé avoir cours à 9h, et que du coup je me levais super tôt, et que à un quart du chemin, en fait, je peux rentrer chez moi, quoi.
Ouais, non, ouais, je pense que t'as été un peu désuite. Enfin, je sais que moi, quand j'étais à la fac, c'était un peu. C'est vrai que c'est compliqué, il faut s'accrocher. Et moi, je sais qu'au bout d'un moment, ce qui me manquait, c'était le concret, de faire de la pratique, d'être en entreprise, d'être un peu plus dans un milieu pro et d'arrêter, voilà. Donc, je pense que c'est peut-être un peu ça, c'est ça qui t'a peut-être manqué. Et vu que peut-être que tu étais déjà un peu dans du concret avec ton activité et que tu y croyais. T'avais plus moyen de t'accrocher au système scolaire, quoi. J'ai l'impression que...
C'est ça, et on faisait toujours les mêmes choses, en fait. En 3 langues différentes, mais j'avais l'impression qu'on refaisait exactement les mêmes choses. Et je me suis dit, si t'as compris en français, tu l'as compris en anglais et en allemand, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de repasser une couche.
Ouais.
Mais ça, c'est, ouais, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Au début, mes parents avaient très peur, parce que arrêter ses études avec juste bac plus 2, qu'est-ce que tu vas devenir, quoi. Enfin, c'est ouais, beaucoup de stress. Et mon papa était moins angoissé parce qu'il est lui-même, entrepreneur. Et il a dit, si t'arrives à faire jusqu'à la fin, ce serait bien. Mais si t'y arrives pas, ça sert à rien de se rendre malade pour quelque chose qui te plaît pas. On n'a qu'une vie. Et de toute façon, même si maintenant les cartes de Lulu, ça marche plus, on sera là, on sera derrière toi pour t'aider à te relancer dans autre chose s'il y a besoin. Au pire, tu feras un an au Leclerc, tu retrouveras de la trésorerie et tu te lanceras dans autre chose. Mais faut pas avoir peur, tu as un toit, tu seras jamais à la rue si ton projet y foire. Enfin, t'es safe, quoi. Enfin...
Ouais, ils t'ont soutenu voilà, dans ta démarche. Et du coup, en fait, si j'ai compris, donc tu es passé à M6. Et donc, comment ça s'est passé C'est face à, en fait, à 6 investisseurs où tu dois en fait décrire ton projet. Et donc, sur 700 entrepreneurs, tu as été sélectionné pour participer. Vous étiez au total
Une soixantaine, je crois.
Ouais. Soixantaine. Et donc, tu es passé à l'émission en janvier.
C'est ça. Et le tournage, en fait, c'était en juin.
D'accord. Ah, ok. Et donc, tu avais arrêté tes études un peu avant,
c'est ça ? J'ai arrêté mes études en mars, à peu près.
Ok.
Et après, du coup, je travaillais à la caisse en attendant et j'ai arrêté la caisse en août pour lancer la rentrée 2019. C'était la rentrée 100% les cartes de Lulu.
Ok, donc là, tu es dans ta première année full, totalement carte de Lulu, quoi. Donc totalement dans ta société, ok. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter le résultat de ce qui s'est passé avec l'émission d'M6, qui était un tremplin
déjà,
pour toi?
Déjà, pour te donner une petite idée, ils sont venus filmer à Wenguff chez moi. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas si j'allais passer ou pas dans l'émission. Donc, on se dit, bon, ils font venir deux journalistes de Paris... une journaliste et un caméraman, je me suis dit, bon, ça veut peut-être quand même dire que je vais passer à la télé, ils s'embêteraient pas. Non, c'est pas sûr. À partir du moment où t'es sur les plateaux, c'est même pas encore sûr que tu passes. Donc, il y a des gens qui ont été tournés et qui sont pas forcément passés dans l'émission par la suite. Et après, en juin, je crois, une ou deux semaines avant le D-Day, ils m'ont dit, bon, Lucie, on t'attend mardi à 13h, il faut que tu sois sur les tournages. On t'attend, c'est le jour J. Et ils ont envoyé à ce moment-là, donc ils ont envoyé la liste des investisseurs. Avant, on savait pas en fait qui est-ce qui serait investisseur sur le plateau. Donc ça laissait quelques jours pour chercher tout ce qu'on peut sur ces investisseurs, savoir dans quoi ils investissent, pour savoir ce qui les intéresse. Et je sais que moi, par exemple, c'est un truc un peu bête, mais j'ai essayé de donner à chacun une carte qui correspondait à leur activité. Par exemple, Frédéric Mazella, je lui ai donné une carte de chevaux parce qu'il a Blablacar. Marc Simoncini, il a une carte Vive les mariés parce qu'il avait Mythique.
C'est énorme ce que tu as vécu. C'est juste génial.
Ah bah oui, c'est une expérience de dingue. Je remercie ma bonne étoile tous les jours pour ça parce que le passage M6, c'est un tremplin. Enfin, ça m'a fait gagner au moins, je pense, 5 ans dans mon activité, quoi. Ça a été.
Ouais, et puis je pense que ça t'a conforté alors que tu étais juste dans ton année de lancement. Enfin, au final, c'était. C'était encore un bébé, ce que tu étais en train de
faire. C'est ce qui m'a... Enfin, je croyais déjà en moi, parce que je sais que mon projet, il est génial. Enfin, je veux pas prendre la grosse tête, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'y ai mis tout mon cœur, donc ça peut que être cool. Mais de voir, en fait, 5 grands investisseurs, des personnes qui ont réussi, qui ont le discours exactement contraire de mes professeurs qui me disent oh, « Mais à 20 ans, c'est formidable, moi je te trouve chouette, c'est bien, continue comme ça. » Et ben, ça vaut tout l'or du monde, moi, pour mon estime et pour mes craintes, ça a un peu effacé toutes les peurs que j'avais en me disant « Ton projet, il est peut-être trop... » Enfin, il est peut-être pas assez ça, pas assez ci. Et eux, en étant tellement positifs et tellement motivés sur mon projet... c'était juste un self-esteem booster, quoi.
M6, ça t'a, en plus de te conforter, ça t'a apporté tout plein de protection pour toi, mentalement, mais aussi financièrement pour ton entreprise. Et ça a été également, en termes, j'imagine, de popularité. Je pense que voilà, t'as dû connaître des ventes un peu plus nationales.
Ben, c'est ça. Avant, on me connaissait en Alsace parce que j'ai surtout des boutiques en Alsace. Parce que quand j'ai démarré mon activité, j'ai pris ma petite sacoche, mon plus beau sourire, mes 3 petites cartes et j'allais démarcher. Tu sonnes pas parce que c'est les portes coulissantes, mais j'allais dans les librairies et je demandais le responsable du rayon carterie quand il y en avait un ou le directeur, la personne qui travaillait là-bas. Et je leur disais que j'avais un produit à leur proposer. Je leur proposais mes petites cartes et souvent, en fait, ce qui revenait, c'est oh, mais c'est pas vos cartes, c'est un peu comme Tupperware, c'est ça, vous vendez pour quelqu'un d'autre. parce que je suis pas très grande en taille non plus, donc je fais un peu plus jeune, et ils me prenaient pas forcément au sérieux. Et je sais que j'ai commencé avec la librairie Kléber à Strasbourg, qui est une des plus grandes librairies de la ville, où la responsable carterie, qui venait de commencer aussi là-bas, m'a dit « Écoute, oui, on va essayer. En fait, ça coûte rien d'essayer. J'avais pas de minimum de commandes. On va prendre, je crois, 15 cartes de chaque modèle. J'en avais 3. » Et le mois d'après, elle m'a téléphoné, elle les avait toutes vendues, quoi.
C'est génial. Et tu as vu le retour des clients là-dessus, du coup? Est-ce qu'elle avait quelque chose à te dire là-dessus? Parce que du coup, toi, t'avais pas de contact direct avec les clients à l'époque, je sais pas.
Ben, je me suis dit que si elles étaient toutes parties en un mois, c'est qu'elles plaisaient bien. Et elle en a recommandé, donc c'est que ça plaisait bien. Et un truc un peu dingue, c'est que après mon passage à M6, j'ai eu plein de messages de personnes avec qui je travaillais déjà, de boutiques, de cadeaux, qui me disaient « C'est drôle, les gens, ils passent la porte en demandant si on a vos cartes. » Et ils achètent en fait d'autres petites choses, mais c'est des personnes qui seraient jamais venues dans notre boutique et qui cherchent vraiment votre produit. Et ça, j'ai trouvé ça juste trop mignon de m'envoyer un mail pour me le dire, quoi.
C'est dingue, c'est génial, franchement. Mais moi, je trouve vraiment ton histoire incroyable et très, 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 très belle. Tu as beaucoup de chance, effectivement. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. Même si forcément c'est ton idée, tu l'as créée de A à Z, tu t'es lancée, tu as également, comme tu as dit, une bonne étoile, mais c'est toi qui l'as cherché aussi, ce facteur chance. Bon, c'est nous qui poussons les choses, hein. Ça tombe pas tout seul, hein, clairement. Et avant d'aller un peu plus sur ce que c'est les cartes de Lulu aujourd'hui, je voudrais comprendre justement... Un peu revenir en avant. Donc tu nous as raconté que tu avais eu l'idée par le biais en fait de ta grand-mère qui utilisait, c'est ça, du papier avec amidon.
C'est des rubans de graines. Enfin, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais Beaumont par exemple, ma mamie tous les ans, elle commande chez Beaumont, et en fait, c'est par exemple, enfin pour le basilic ou certaines graines, c'est des rubans vraiment tout fins. Où en fait, c'est vraiment, les graines, elles sont placées toutes les 5 cm pour qu'en fait, on est juste à les poser dans le jardin, qu'on n'ait pas à les mettre avec la main, et que, en fait, ce soit planté à une bonne distance pour que ça pousse plus facilement. Et que ce soit planté correctement. Parce qu'en Alsace, enfin, après, c'est l'expérience que j'ai, et ma mamie, il faut que ce soit planté droit. Hein. Les potagers, ils doivent être nickel. C'est à qui aura le plus beau jardin.
Il y a beaucoup de super jardins de par chez vous, en tout cas, les entrées de maison et tout ça, c'est toujours assez très coloré,
c'est
très joli.
Avec de jolis géraniums, un joli potager au carré.
Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette démarche, c'est le côté zéro déchet. Est-ce que toi, tu y avais pensé à l'époque aussi également? Est-ce que tu étais sensibilisée? Quel rapport tu avais par rapport à tout ça, à créer un produit qui, au final, soit totalement biodégradable de A à Z? Et donc, en fait, au final, qu'il n'y ait aucune empreinte écologique grâce à ça.
C'est ça, parce qu'en fait, je sais que moi, je garde... Enfin, les cartes que j'ai reçues quand j'étais petite, je les ai toujours gardées. Mais les enfants, en colonie, la plupart, ils la lisent et ils la jettent à la poubelle, la carte. Enfin, et après, c'est les parents qui demandent « Mais t'as pas gardé la carte que je t'ai écrite ?» Non, écoute, j'ai lu ton message, c'était cool, merci. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage qu'une si belle attention ait un aussi gros impact, en fait, sur notre planète, parce que au final, c'est encore un déchet de plus, alors que ça part d'une bonne intention. Et je me suis dit, avec ces cartes qui font des fleurs, on perd le côté où on peut le garder, mais en soi, on garde toujours un souvenir, puisque les fleurs, quand elles poussent, on se rappellera que « Ah tiens, c'est la carte de Tati Germaine. Oh, vraiment, c'était chou qu'elle m'ait écrit cette fois-là. » Donc, ça allie en fait les deux côtés. Le côté où ça n'a pas de traces et d'impact sur notre planète, mais en même temps, ça reste une attention dans le long terme.
Oui, parce que tu offres une carte, mais en plus, tu offres des fleurs.
C'est ça, la carte, en fait, elle devient des fleurs. Et du coup, même si on n'a plus la carte en tant que telle, on a toujours les fleurs qui sont là et qui nous rappelleront les petits mots qui étaient écrits sur la carte, quoi.
Et en dehors des cartes, est-ce que toi, dans ta façon de vivre, t'as une démarche écologique, environnementale, ou c'est seulement parce que voilà
Bah après, je pense que c'est comme tout le monde. Enfin, on fait son maximum. Je sais que c'est un truc con, mais j'utilise plus que des lingettes démaquillantes. J'utilise pas des trucs à l'unité. Ouais. Enfin, j'utilise un auriculi ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, des petites choses simples, quoi.
Ouais, non, ok. Non, mais c'était une question que je me posais parce que justement, je trouvais que c'était assez dans l'air du temps ce que tu proposais comme, comme solution de carte postale. Et du coup, je me demandais aussi si de ton côté, c'était quelque chose voilà, que tu voulais peut-être aller plus loin dans ta société à travers cette démarche.
Enfin, c'est quelque chose de super important. Enfin, je sais que nous, en tant que... Enfin, j'habite dans un petit village avec plein d'agriculteurs. Je sais que, par exemple, c'est très bête, mais enfin, pour nous, par exemple, on achète tous nos légumes à la ferme à côté de chez nous. C'est des trucs qui paraissent tellement logiques, mais parce qu'on est nés dedans.
C'est ça.
Les œufs, c'est ceux de ma mamie. Le bibles cassa, on le prend à la ferme à dents. Enfin, on essaie toujours de prendre des choses à côté de chez nous, mais parce que autrefois, dans les villages, c'était comme ça. On achetait chez les uns les autres et on se soutenait. Les asperges, on va pas les chercher à la grande surface, on va les chercher directement à la ferme parce que on connaît trucs et machins que voilà, on veut les soutenir. Pareil pour les fraises. Enfin, c'est bête, mais.
Non, mais tu fais bien de le rappeler, parce que je pense que c'est quelque chose qui revient à la mode, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été, c'est manger local, c'est aussi soutenir, en fait, les personnes locales. Mais c'est quelque chose, enfin, je sais, actuellement, je suis dans une grande ville, ça n'existe pas, c'est mort, il n'y a pas de ferme, il n'y a aucun moyen de se nourrir, et moi, je me bats à chaque fois, encore plus, pour trouver des produits frais, et des légumes frais, et des choses fraîches. En tout cas, quand on est en ville, c'est un peu plus compliqué.
Non, mais c'est ça, et après, je pense que on le voit pas forcément comme une chance avant d'avoir été autre part. Enfin, pour moi, au début, c'était normal. Enfin, c'est logique parce que j'ai toujours vécu comme ça où quand c'est la saison des asperges, on va à la ferme à Vélenheim et on cherche nos asperges. Alors que pour certains autres, tu vas à la grande surface, tu sais pas trop d'où elles viennent, mais tu les prends, quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est une chance. J'aime mon petit village.
Non, mais c'est ça. C'est aussi, j'ai beaucoup aimé aussi dans ton histoire. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. C'est aussi que tu es très attachée à ta région. Enfin, je l'ai ressenti. Après, je sais pas, parce que peut-être que c'est pas le cas.
Bah si, j'aime bien être alsacienne, moi. Non, après, c'est toute une culture. Mmh. Enfin, comme toutes les régions d'ailleurs. Mais je sais que nous, on mange. Enfin. On adore manger nos tartes flambées et c'est schnock, mais c'est vraiment, ça fait partie de notre culture. Enfin, il y aura des géraniums au balcon des fenêtres quand ce sera la saison. C'est quelque chose, on est attaché un peu à ces petites choses qui font que notre Alsace est belle, quoi.
Ouais, c'est très touchant ce que tu dis. C'est très, c'est assez, l'an d'une personne qui a 21 ans. Je fais pas ma vieille, hein, j'en ai que 28, mais je trouve ça assez, plein d'espoir, ce que tu dis. Je trouve ça très, très beau. On va revenir sur le sujet de ton entreprise, hein, quand même, de ta société. Et du coup, du déclic, comme le nom de ce podcast, moi, j'aurais voulu qu'on comprenne, même si tu l'as partagé un peu avec... tu nous as parlé de ta grand-mère, qui t'a parlé de cette solution avec de ruban. Mais comprendre, en fait, le déclic, surtout le moment où tu t'es dit, et si je lançais, même si tu as commencé avec tes illustrations, comment ça a traversé ton esprit? Comment tu l'as vécu ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en rappelles exactement le moment où tu t'es dit « Allez, je tente quelque chose » ?
En fait, je pense qu'il n'y a pas un déclic, il y en a plusieurs. Donc, le premier déclic, ça a été de lancer mon site internet avec les cartes des autres illustrateurs parce que j'aimais bien les cartes. Et j'avais un compte Instagram dédié avec juste les cartes postales que j'envoyais partout dans le monde, les jolies enveloppes que j'aimais décorer parce que j'aimais ça. Et j'avais de la demande de personnes en Russie qui voulaient que je leur achète des cartes aux librairies à Strasbourg, par exemple, et que je leur envoie. Et la première, je me suis dit, bah oui, pas de souci, je lui fais, voilà. La deuxième, je me suis dit, en fait, il y a peut-être un marché quand même, parce que c'est vrai que la plupart des sites d'illustrateurs, quand tu commandes de l'international, tu es obligé d'avoir un certain montant d'achat. Et tu as forcément la livraison en colissimo, donc t'en es à 15€ de livraison, même si t'as une carte. Enfin, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien... un site où ça fonctionne vraiment comme la poste, où il y a le suivi effectivement pour ceux qui veulent est donc assuré, et pour ceux qui ont pas peur, on va dire, pas de suivi, et ça arrive si ça arrive, voilà, la plupart du temps ça arrive, mais pour deux cartes, ça vaut pas le coup de payer 15€ de livraison et 3€ de carte, quoi. À la limite, ils recommandent si vraiment ça arrive pas, et alors j'envoyais du coup la l'enveloppe en photo avec l'adresse et le timbre, et il vérifiait avant que je l'envoie, et voilà, quoi. Et où j'envoyais encore ma photo de moi en train de poster l'enveloppe. Au début, c'était comme ça. Et, et j'avais, quand j'ai commencé, pas mal de commandes, du coup, plus à l'international, que chez nous, parce que chez nous, quand on commande en France sur certains sites, on trouve facilement. Et aussi, pour me démarquer, j'avais plusieurs éditeurs. Je sais que, par exemple, il y a certains éditeurs qui n'ont pas de site en ligne, parce qu'ils préfèrent privilégier les revendeurs, ce que je comprends. Et du coup, sur pas mal de sites, c'est soit juste l'éditeur, donc ses cartes, mais pas plusieurs éditeurs regroupés. Donc moi, j'ai essayé de travailler avec les éditions des correspondances, les éditions de mai. Là, comme moi, je suis frontalière, du coup, je travaille aussi avec deux éditeurs allemands, ouais. Les éditions Skovronsky et les éditions Golong. Et du coup, je me suis dit, ça permet aussi aux gens d'avoir une sélection un peu plus variée. Et ça marchait bien. C'était peut-être 5-6 commandes par mois maximum, c'était rien. Mais ça me faisait tellement plaisir, en fait, d'avoir ce petit côté entrepreneur qui commençait. Je venais pas de commencer mes études, mais j'étais au début de mes études. J'ai fait mon site moi-même sur PrestaShop de A à Z. J'y ai passé des heures et des heures parce que j'ai pas de formation en site internet, on va dire. Et en juin, du coup, j'ai eu ce deuxième déclic avec les cartes de ma mamie, enfin avec le ruban de graines de ma mamie, et je me suis dit, des cartes à planter, mais ce serait trop bien, en fait. Ça irait avec la démarche que j'ai, ça irait avec ceux qui gardent pas forcément la carte et qui la jettent tout de suite après. Et en fait, comme l'a dit Marc lors du passage M6, c'est poétique. C'est tellement beau d'envoyer des fleurs à quelqu'un, et enfin un petit mot qui deviendra des fleurs, vraiment. Et du coup, ça, c'était vraiment le deuxième déclic. Et après, j'ai eu un troisième déclic, je pense, avec Delphine Balm, donc qui est une des illustratrices avec qui je travaille beaucoup. C'était, je crois, en octobre, du coup, 2018, où elle était en fait dans la même boutique de créateurs que moi à Strasbourg. Et je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant que j'adorais ce qu'elle faisait, tout simplement. Et j'étais à mon tout début, donc elle avait aucune raison de croire en moi et de me dire ok, on essaie de travailler ensemble. Elle avait aucune preuve que ça allait marcher derrière. Et elle était super super motivée. Elle a dit on essaye. Et du coup, moi, j'avais mis de côté, donc je lui ai payé tout de suite les droits des illustrations. Elle a reçu un certain montant. Okay. Et après, j'ai décidé que je travaillerais comme tous les éditeurs, avec des royalties. Sauf qu'un truc qui me plaisait pas dans l'édition, c'est que les éditeurs, ils payent sur les ventes. C'est-à-dire que maintenant, ils font imprimer 5000 cartes avec tes illustrations, mais qu'au final, ils se donnent pas les moyens et qu'ils en vendent 3, tu as 6% de 3, par exemple. Ce qui est nul.
Donc l'illustrateur, si je comprends pas bien, ne touche que ce qui a été vendu.
C'est ça, c'est la plupart des éditeurs. Et ça, moi, je trouvais ça nul, parce que c'est pas motivant. Tu te dis, en fait, si l'éditeur, il a juste pas envie de vendre, il perd rien. Il a juste des impressions, quoi. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que elle reçoit son pourcentage, et d'ailleurs, toutes mes illustratrices, c'est toujours comme ça maintenant, lorsque je les imprime. Ce qui me motive encore plus à les vendre, parce qu'on se dit, on a payé l'illustratrice et on veut pas les avoir sous le bras et faire de la perte, quoi.
C'est ça.
Et ça permet aussi à l'illustratrice d'avoir une sécurité. Elle dépend pas de moi si je vends bien ou pas. Quand j'imprime, si j'en fais 100, elle reçoit son pourcentage sur les 100 tout de suite quand je les imprime, et pas 3 mois après quand j'ai vendu les 100, par exemple.
C'est bien aussi de le noter dans ce podcast, que montrer effectivement la chaîne, en fait, toute cette chaîne d'impression, d'illustration. C'est aussi effectivement assez compliqué de rémunérer tout le monde à sa juste valeur, en fait. Et j'aimerais revenir justement sur la façon dont tu as approché cette première illustratrice. Delphine, elle a cru en ton projet, en fait, aussi.
C'est ça. Je sais que moi, j'aurais été à sa place, je reçois un message d'un compte Instagram qui a peut-être 200 abonnés qui se battent en duel et qui me proposent d'acheter mes illustrations pour les publier sur des cartes à planter. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? J'aurais peut-être pris peur. Quelqu'un d'autre aurait pu prendre peur et se dire, mais c'est quoi cette arnaque, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle me veut? Et au final, Delphine, elle a tout de suite dit, oh, mais j'aime beaucoup, c'est poétique. On essaye. Et du coup, on a commencé avec, je crois, 10 illustrations, avec 2 de Noël, 2 de naissance, une bonne retraite, 2 anniversaires, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre, et une Alsace. Donc on a commencé comme ça, et au jour d'aujourd'hui, avec Delphine, on a 48 cartes, et elle a fait toute une série de faire-part, donc de naissance et de mariage semi-personnalisés, et je travaille encore beaucoup avec elle sur des projets pour des entreprises aussi.
Et tu travailles avec combien d'illustratrices au total aujourd'hui? Ou d'illustrateurs, pardon.
Au jour d'aujourd'hui, on est 7. Et il y en a une qui est en train de faire plein de jolies illustrations et qui arrive. Okay. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ce super confinement, j'ai tout mis en stand-by, en fait, tout ce qui est création. parce que ça fait depuis mars que du coup il n'y a pas de commande vraiment. Donc j'ai préféré pour que les cartes de lui tiennent le coup, parce que malgré le passage télé, je reste une très petite entreprise. Il n'y a que moi en salarié, on va dire. Toutes les illustratrices avec qui je devais lancer des contrats, j'ai dit qu'on le ferait plutôt en septembre, enfin quand j'aurai de nouveau gagné de la trésorerie, pour pas être ric-rac, quoi. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui est important de mentionner. La crise, en fait, elle touche tout le monde, même si on le montre pas en tant qu'entreprise. C'est quand même pas facile, quoi.
Tu le sens là au niveau de ton entreprise?
Bah, ça fait 2 mois sans activité presque. C'est énorme, enfin. Il y a quand même les charges à payer derrière, les loyers à payer derrière. Si je veux me sortir un salaire, bah, il y a à peu près 50% qui va à l'État pour plein de trucs. Donc, c'est quand même compliqué, quoi.
Ok. Et avant ça, financièrement, ça se passait bien pour les cartes de Lulu avant qu'il y ait le Covid, par exemple?
Ben, normalement, en fait. Enfin, je me sors pas des milliers et des milliers, mais j'ai toujours... Enfin, je me suis sorti mon premier salaire en février.
Cette année?
Seulement, ouais.
Ok. Ah, c'est...
Donc... Et c'est le SMIC, c'est pas 5000 euros, voilà. Et je sais que le mois de mars, je me suis pas sortie de salaire, parce qu'avec le début du Covid, on savait pas trop combien de temps ça allait durer. Je me suis dit, je préfère garder, parce qu'en fait, quand on paye 1200 euros de salaire pour soi, il y a à peu près, on va dire, 2000 euros qu'on paye en tout avec toutes les charges. Ouais. Je me suis dit, je vais les mettre de côté, parce que c'est énorme, 2000 euros, tout ce qu'on peut faire avec. Je suis encore chez mes parents, j'ai de la chance. Je suis pas obligée de me sortir cet argent maintenant, je le mets de côté. Et du coup, là, en avril, on a un peu plus... Enfin, on sait que ça reprend en mai, normalement. J'ai de nouveau une ou deux commandes de revendeurs qui savent où on en est, qui reprennent un peu de stock, parce qu'ils savent que la reprise arrive, qu'il y a la fête des mères qui arrive. Ouais. Merci pour cette belle année pour les maîtresses, donc... rien par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais j'ai 2-3 commandes, donc je me suis dit que peut-être que pour le mois d'avril je vais me sortir de nouveau un petit salaire, mais je pense pas que ce sera le SMIC, ce sera genre 500 euros juste pour pour vivre quand même correctement, parce que j'aime bien quand même participer à la maison, enfin je sais que je fais les courses pour toute la famille, même si j'habite sous le même toit, enfin c'est important de contribuer un peu.
Mais voilà, c'est bien de le noter effectivement que tu vis chez tes parents, et donc heureusement voilà, c'est pas parce que t'es passé M6 que voilà, même avec, enfin, il y a la crise du Covid qui est passée, mais sans ça, je pense que quand ça reprendra...
J'ai pas encore de yacht et de maison en Floride.
On va revenir un peu sur le déclic, même si tu nu l'as raconté, que ça s'est passé en plusieurs étapes, qu'effectivement, tu t'es lancée, voilà, tu t'es lancée toi toute seule, après tu as démarché une illustratrice, et j'imagine que petit à petit, ça a commencé à se faire connaître, tu as eu de plus en plus de ventes, et du coup, tu as eu de plus en plus de contacts avec l'illustratrice, et si j'arrive à suivre, il y a eu ensuite M6, en quelque sorte.
C'est ça, en fait, Delphine, c'est la seule que moi j'ai démarchée.
D'accord, ah ouais, donc c'est vraiment...
Les autres, après, elles sont venues vers moi.
Est-ce que tu as eu peur, en fait, de te lancer quand tu étais dans ces démarches avec les illustratrices, que tu m'as bien dit que tu travailles aussi à Leclerc à côté en train de, pour essayer de se financer dans cette période-là? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des doutes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, bon, peut-être qu'en fait, voilà... Ou alors, est-ce que tu t'es fixé, tu avais une idée, c'était ça, ce sera ce que je veux faire plus tard, en tout cas, c'est ce que je veux créer, et voilà.
Bah, je pense que comme tout le monde, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, mais je les ai toujours mises de côté, en fait. Parce que je me dis que si on est régi par ses peurs, on n'avance pas, et que, enfin, mieux vaut faire des choses un peu folles, et au pire, ça foire et on se relance, que de pas faire les choses parce qu'on a peur et d'après regretter. Donc, je sais que, par exemple, quand j'ai quitté le Leclerc, j'ai beaucoup hésité. J'adorais mes clients qui venaient à la caisse. Il y en a certains qui venaient toutes les semaines. J'ai une mamie qui venait toutes les semaines à ma caisse. J'ai un couple qui a eu un enfant. J'ai reçu un faire-part en étant à la caisse. Enfin, j'ai trouvé ça tellement mignon. Enfin, on est attaché en fait à ces personnes qu'on voit tous les samedis. Mais d'un autre côté, je me disais, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas un métier où je me vois être caissière à long terme. Et c'était un choix où je me suis dit. Si maintenant les cartes de Lulu dans 3 mois ça marche pas, je me retrouve avec rien. Enfin, je suis chez mes parents, évidemment, je peux retrouver du boulot, mais j'ai que bac plus 2. J'ai sur mon CV juste que j'ai été hôtesse de caisse. Ben, c'est un peu stressant de se dire qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Et du coup, je flippais un peu. Et puis, je me suis dit, quand j'ai donné ma démission, le directeur du magasin, il m'a félicité. Il a dit qu'il était très fier de moi. et qu'il était très content que j'ai travaillé jusque-là avec eux, et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, je serais toujours la bienvenue pour venir travailler là-bas.
Ok.
Ce qui est quand même trop mignon, quoi. Enfin, il n'a pas aucun intérêt. Enfin, ouais. Il y a plein de personnes qui cherchent du travail et qui, voilà, mais il a dit qu'il trouvera toujours quelque chose si jamais il y a quoi que ce soit, qu'il ne faut pas que je m'inquiète.
Il y a beaucoup de bienveillance, en fait. Enfin, c'est important aussi de le dire un peu de part et d'autre. Est-ce que, mis à part les profs que tu as pu avoir, il y a eu d'autres personnes ou alors il y a d'autres personnes qui ont cru en toi ou qui t'ont fait douter parmi tes proches? Tu m'as dit que tes parents...
Ben, mes proches étaient super, super motivés. Enfin, après, en tant que parent... Ma maman, elle avait un peu peur juste que j'arrête mes études. Elle avait pas peur que je me lance dans l'écart de vue, mais elle avait un peu plus peur que j'arrête parce qu'elle travaille dans un collège. Okay. Donc pour elle, c'est aussi un peu d'angoisse de se dire, moi je suis l'aînée, on est 5 enfants et je suis la plus grande, et de se dire, oh, si elle arrête ses études, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce qu'elle va réussir? Enfin, cette angoisse, mais n'importe quel parent l'aurait,
bien
je
sûr,
crois.
Ouais, c'est normal, c'est humain, c'est juste pour ton bien-être.
Mais elle m'a jamais, dit de pas le faire, quoi. Elle m'a toujours quand même poussée à croire en mes rêves, et elle m'a toujours aidée. Elle a fait les livraisons qu'il fallait si j'étais sur son chemin. Non, mais c'est des trucs bêtes, mais si j'avais une grosse commande et qu'il fallait m'aider à emballer des cartes, elle ouais. le faisait. Même si dans un coin de sa tête, elle s'imaginait, oh, elle a arrêté ses études. J'espère. Enfin, il fallait que ça marche, quoi. Enfin. Elle avait ce petit côté anxieux.
T'avais pas de pression, du coup, toi, de ton côté, à te dire, ah là là, si j'échoue, ou alors justement, tu te disais, bah c'est pas grave, au moins j'apprends, tout ce que j'entreprends, ça me permet de découvrir quelque chose de nouveau. Ou...
Bah dans mon éducation, je pense que j'ai eu la chance d'avoir toujours beaucoup de bienveillance. Chez nous, enfin, on fait une bêtise, c'est pas grave, on se fait un peu rouspéter, mais faut juste pas la refaire. Si maintenant je me casse la binette, mes parents ils vont m'aider à me relever, ils vont soigner le petit bobo et ils vont me repousser sur le vélo en disant, bon, maintenant cette fois tu vas plus loin, hein, tu tombes pas au milieu. Ouais. Et ça, je pense que j'ai beaucoup de chance, et que c'est aussi grâce à ça que j'en suis là où je suis. C'est parce que j'ai tout ce côté familial qui m'entoure et qui est toujours là pour moi. Je sais qu'en fait je serai jamais, enfin c'est bête, mais je serai jamais seule si jamais ça foire ou quoi. Ils seront là pour me dire, Lucie, t'as pensé à ça, t'as qu'à te relancer, t'avais pas cette idée folle là la dernière fois que t'as dit au repas, bah t'as qu'à essayer ça, hein, au pire, voilà.
Mais
hein,
est-ce qu'aussi de ta façon d'être ou comme personne, tu es aussi quelqu'un qui est créative et voilà, j'ai l'impression que tu fourmis d'idées en fait au fond de toi. Tu nous avais parlé que t'avais été très influencée à l'Innovation Campus du McDonald's à Chicago. Est-ce que c'est pas quelque chose, voilà, au final t'aimes bien créer, j'ai l'impression, ou alors je me trompe?
Ben non, c'est ça, j'aime bien toujours avoir de nouvelles idées. Si j'étais riche, je pense que j'aurais déjà 57 entreprises de 26 produits différents et que je ferais déjà plein de choses. Mais des fois, il faut aussi, rien que pour mes cartes, et ça, j'ai de la chance aussi d'avoir mes parents pour ça, qui me disent, fais les choses une par une. Tu peux pas avoir 50 000 produits d'un coup. Il faut que tu fasses les choses au fur et à mesure.
Ouais. Ils te canalisent.
C'est ça. Là, j'aimerais bien lancer un stylo en encre végétale pour écrire sur mes cartes, du coup, et pour utiliser la même encre que celle qu'on utilise en impression. Mais pour l'instant, en fait, déjà, j'ai pas les fonds parce qu'il faudrait faire une deuxième entreprise ou alors une succursale, ou je sais pas encore trop comment. Mais il faut d'abord que je fasse ce projet-là bien, que celui-là soit fiable pour pouvoir, en fait, déléguer un peu sur celui-là et lancer un peu un autre, quoi.
Du coup, je voulais comprendre, donc, plan futur, toi, ce sera... Enfin, tu veux entreprendre encore plus. J'ai l'impression que tu as encore plusieurs idées en tête, c'est ça?
Ben, j'aime beaucoup mes cartes. Donc, pour l'instant, je fais mes cartes. Je sais que là, j'ai lancé il n'y a pas longtemps les mini cartes à planter. Donc, c'est un format carte de visite double pour les fleuristes.
Ah oui.
Et j'espère bien continuer de travailler sur plein de petits produits de la gamme. Je sais que par exemple, c'est un truc bête, mais on m'a déjà demandé de faire des carnets de coloriage pour les enfants. Ah. Sauf que l'idée est belle, mais les enfants, en fait, ils n'ont pas envie de planter leur dessin, ils ont envie de l'offrir à maman, papa.
Mais c'est ça.
Donc il y a plein d'idées où j'ai plein d'idées, et après, il faut quand même que je réfléchisse à chaque fois en me disant ça, pourquoi tu le ferais? Est-ce que ça reste dans la démarche? Est-ce que c'est intelligent ou pas?
Ouais.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent d'imprimer le mode d'emploi en plus de la carte et pas de l'avoir imprimé sur la carte. Mais en fait, ça a plus d'intérêt. Alors, c'est plus une carte à planter, c'est une carte à planter et son mode d'emploi. Et du coup, ça fait un déchet que on va pas garder le mode d'emploi, en fait, une fois que c'est planté. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où j'essaye d'abord d'améliorer mon produit dans le futur. Enfin, je sais que on parlait dans M6 des blisters en biodégradable. Mmh. Ben, ça s'est fait. Depuis,
d'accord.
L'émission s'est fait.
Super.
C'est en PLA, donc c'est c'est biodégradable industriellement pour le moment.
Ok.
Donc, si c'est chauffé à je ne sais plus combien de degrés pendant 6 mois, ça se désintègre complètement sans émissions négatives. Et ce que je recherche maintenant, c'est carrément des blisters compostables.
Ouais.
Sauf que pour l'instant, en fait, le problème, c'est que les blisters compostables, ils ne sont pas transparents comme je les aimerais pour des cartes.
Ouais, c'est moins esthétique.
Et surtout, il faut qu'ils tiennent aussi longtemps que la carte. Mmh. On peut pas avoir un blister compostable qui tient 3 mois sur une carte qui tient des années, quoi. Enfin, faut que ça marche pour que ça reste en rayon correctement et que...
Ok, voilà. Ouais. Et c'est toujours... En fait, t'as toujours des idées, mais toujours dans cette idée de biodégradable, de zéro déchet, ou c'est...
Ben, je pense que c'est important quand même de rester dans la démarche et de suivre un fil conducteur et d'être en accord avec soi-même dans ce qu'on fait. Des produits où je trouve que c'est intelligent, mais où je le ferai pas parce que je vois pas l'intérêt de créer un déchet de plus, même si c'est ouais. utile. Après, c'est chacun doit être en accord avec soi-même. Je sais que moi, ma petite devise un peu neuneu peut-être, c'est il faut se lever de bonheur, mais pas de bonheur genre tôt, de bonheur genre bonheur quoi. Faire des choses qu'on aime et être en accord avec soi-même. Moi, je suis contente parce que tous les matins, je me lève et je sais que je fais quelque chose de bien, quelque chose qui impacte pas négativement notre planète. Quelque chose qui rend heureux, enfin c'est un peu bête, mais c'est important pour moi, et de savoir que en fait, enfin je dessine pas une forêt en Amazonie pour ma pâte à tartiner, enfin c'est bête, mais je pourrais pas me lever sinon tous les matins comme ça, en pensant
à
ça.
Ah ouais, mais c'est exactement, tu mets exactement le doigt sur, sur quelque chose que moi j'essaie de mettre en valeur à travers ce podcast, c'est de montrer que toi, et tu fais partie de d'autres personnes qui ont fait le choix d'entreprendre et de faire des choses qui ont un sens pour eux, même si ton impact est peut-être au niveau local, mais en tout cas tu as lancé quelque chose ouais, qui n'a pas forcément d'impact écologique. Voilà, tu te lèves le matin, ton travail a un sens.
Et je sais que c'est un truc tout bête, mais là maintenant j'ai lancé du coup les cartes où j'écris directement aux personnes, et je sais que j'ai reçu peut-être 3-4 messages de personnes qui m'ont dit oh, ma mamie a reçu la carte, elle était tellement heureuse, merci pour ce que vous faites. Ou une mamie, enfin je travaille beaucoup en fait avec des petits-enfants qui écrivent aux mamies et des mamies qui écrivent aux petits-enfants, je sais pas pourquoi mais je trouve ça trop mignon. Ou qui me dit oui mon petit-fils il a reçu sa carte, c'était vraiment super, il était super content, merci pour ce que vous faites. Alors que, enfin, je sais que j'aime bien décorer les enveloppes parce que c'est joli et que ça fait plaisir, mais en soi, je fais rien de fou. C'est juste que j'aime bien faire les choses correctement, et quand je reçois ce genre de message, je me dis, mais c'est trop bien en fait ce que je fais, enfin, ça me fait trop plaisir d'apporter un peu de bonheur aux autres.
Ouais, non, non, vraiment, vraiment, c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve ça... Enfin voilà, peut-être que c'est aussi ta génération, parce que tu as juste 20 ans, mais qui est encore plus à la recherche de ça, d'avoir quelque chose, un travail qui amène du sens, un travail voilà, où tu as une espèce de reconnaissance directe, où tu peux voir directement l'impact de ce que tu fais, de ce que tu entreprends. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça juste génial, en fait, ton histoire est juste incroyable. Mais on va terminer ce podcast, et avant ça, je voudrais peut-être savoir si tu avais quelque chose à partager avec nos auditeurs qui, comme toi, peut-être sont en études aussi, ou ont des idées, ou sont également dans une profession et souhaiteraient se lancer. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais partager comme premier conseil, première chose que tu aimerais dire, ou inspiration ?
Faut vraiment essayer de se lever le bonheur le matin. On n'a qu'une vie. Ouais. Alors, ça paraît un peu cliché, mais je pense que si on s'en sent capable et qu'on croit en ses projets, faut pas avoir peur de les tester. Au pire, ça foire, mais on peut toujours se relever et faire autre chose. Mais au moins, on aura en soi... Ce petit truc qui dit j'ai essayé, j'ai tenté le coup et j'ai essayé de réaliser mon rêve. Et peut-être qu'il y aura un rêve le jour d'après qui lui se réalisera. Et c'est important de croire en soi, de croire en ses projets. Et je pense que, évidemment, hein, faut travailler pour. Si on se lève et qu'on s'assoit sur son lit et qu'on se dit bon, mon projet il va se réaliser aujourd'hui, mais qu'on fait rien pour, ça arrivera jamais. Faut beaucoup de travail, mais je pense que si on s'en donne les moyens, on peut.
Oui, parce que je pense que c'est important de le noter, c'est que c'est pas arrivé du jour au lendemain pour toi non plus. Je pense que t'as aussi pas mal cravaché pendant tes études et voilà, t'as donné ton temps, t'as travaillé chez Leclerc comme tu l'as dit, t'as mis de côté.
Hein.
c'est quand même à souligner, c'est que c'est pas quelque chose, voilà, tu as eu l'idée, tout s'est mis de bout à bout, tu as démarché une illustratrice, les librairies, voilà, tu as beaucoup donné aussi de ta personne.
J'étais en 200%, enfin, pour se donner une idée, quand je me suis lancée, c'était la semaine, j'étais en cours. Le samedi, j'étais à la caisse. Le dimanche, je faisais les cartes de Lulu. Donc, je ne m'ennuyais pas. Enfin, je sais que pendant un certain temps, Enfin, après, j'ai ma vie de famille parce que je suis encore à la maison, mais je sortais pas au cinéma. Enfin, je travaillais, en fait, parce que je voulais que ça avance et je voulais que ça marche. Et ça, c'est du temps que j'ai pas perdu parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai de nouveau un peu plus de temps pour moi, mais je me dis, j'ai quand même passé des mois et des mois où je faisais que ça parce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'en étais pas malheureuse, en fait. J'étais super heureuse de me dire, aujourd'hui, je vais vraiment travailler sur l'illustration de Delphine, voir comment on peut l'améliorer, plutôt que d'aller au cinéma, même si j'adore aller au cinéma et manger des pop-corns.
Ouais, parce que c'est la passion, je pense, qui te drive, ça, parce qu'il y a un sens, en fait, derrière. Donc, du coup, voilà, tu comptes pas les heures. Même c'est si ça. c'est important de dire stop, mais voilà, moi je tenais un peu à souligner aussi que, parce que c'est vrai que ton histoire fait très conte de fées en termes d'entrepreneuriat, mais conte de fées, le prends pas négativement, hein, justement, c'est une super histoire, mais je pense que c'est important de montrer aussi tous les efforts et tout le travail que tu as fait pour que voilà, ça se fasse, malgré en plus les super remarques hyper chaleureuses de tes professeurs.
Et c'était pas vraiment... les seuls. Enfin, je sais que quand j'ai démarché certaines boutiques, j'ai démarché une boutique par exemple au Luxembourg. D'abord, ils étaient super motivés. Ensuite, ils m'ont demandé d'envoyer un échantillon, chose que j'ai fait. Et j'ai reçu un mail comme quoi c'était un bout de papier, c'était pas une carte, et que ça, ils pourraient jamais le vendre, et que c'était une honte que je propose ça à ce prix-là, un bout de papier, enfin un mail vraiment hyper désobligeant, parce qu'en fait, effectivement, quand on écrit sur la carte, c'est pas écrit propre, c'est pas écrit propre. Il y a les petites graines, donc on n'écrit pas normalement, quoi. Et du coup, je l'avais mis sur les réseaux sociaux, sans citer la librairie, parce que je voulais que ça reste anonyme, mais je voulais pas. Et je sais que c'était un des moments où j'ai eu un coup bas, où je me suis dit, oh, mais est-ce que je dois continuer si les gens y pensent ça? Et à l'époque, j'avais peut-être allé 200, 300 personnes sur mon Instagram, et j'ai jamais eu autant de commentaires qui me disaient, mais non, Lucie, n'écoute simplement pas, moi j'ai déjà acheté des cartes et je les trouve géniales. Enfin, c'est juste des gens un peu hautains, et que. Et nous, on trouve ton produit génial, pense pas. Enfin, vois pas le négatif, il y a juste des gens qui sont nazes, quoi. Enfin, et ça, il y a toujours le côté positif, en fait, qui vient après le négatif, et ça, c'est aussi important dans une entreprise.
Ouais, c'est très important, je pense, de le dire, effectivement, parce que c'est quand on est négatif, on voit pas le reste et tout, mais je pense que c'est important d'être bien entouré, d'avoir la famille, effectivement, les gens qui croient en toi. Et voilà, et je pense qu'on peut peut-être terminer sur ces belles paroles très inspirantes. Je te remercie vraiment beaucoup de ton temps, Lucie, et je te souhaite tout le meilleur pour les cartes de Lulu, et à bientôt sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup à toi.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter, @ledeclicpodcast, et Instagram, @le.declic.podcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain rendez-vous.